Merci Steve et toute son équipe. Ah, Trevor, ça va? Ok, c'est bon. Oh, et je suis sous enregistrement. Les moindres mots seront enregistrés. C'est correct ça, ça prend une preuve. Alors en attendant que notre projection se prépare, je vous inviterai à vous courber. On va aller dans la prière avant de commencer. Demander au Seigneur de nous bénir ce matin. Seigneur notre Dieu, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu as à nous dire, à chacun de nous et en commençant par moi. Et que tu déposes dans le cœur de chacun quelque chose de particulier à travers ce message, Seigneur. Que tu fasses du bien à chacun et que tu donnes la joie, ta joie qui est promise à chacun de nous et cette joie qui sera notre force. Nous te prions dans le beau nom et le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles au livre de Néhémie au chapitre 8. Alors, nous continuons notre étude ce matin, notre série sur Néhémie, donc au chapitre 8. Et un total de 18 versets, et j'en fais une lecture légèrement abrégée, donc de suivre dans votre Bible avec les différents versets que je vais peut-être escamoter pour le besoin ce matin. Car je sais que vous avez tous pris du temps cette semaine à vous préparer à ce dimanche et vous avez lu le chapitre 8 probablement quelques fois hein, pour bien vous préparer, disposer. Alors, on va le lire ce matin quand même. On va regarder ça ensemble. Alors, Néhémie, chapitre 8, verset 1, on commence. « Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. On va au verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7, je vous épargne les noms, 13 personnes et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctivement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Verset 14. « Et ils trouvèrent écrit dans la loi de l'Éternel que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. » On va au verset 17. « Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ses tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait pareil. Et il eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Et il eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Fin du chapitre 8. Béni soit sa parole. Alors, ce matin, si vous étiez à la première partie, Michel a pratiquement introduit mon message. Et je trouvais ça super. J'avais comme question, qu'est-ce qui fait votre joie? Hein, c'est bien ça qu'il a dit un matin, Michel. Hein? Ah, écoute, en plein dans le mille. Qu'est-ce qui fait votre joie? Et on voit que le peuple d'Israël avait terminé. On a vu ça au chapitre 7 la semaine dernière. Et le peuple d'Israël avait terminé la muraille. Et donc, c'était le temps de festoyer. Hein? La job est finie. Youpi! Hein? Qu'est-ce qui fait votre joie? Il y en a que c'est des banquets, la bonne bouffe, hein? Un bon restaurant, tout le fun, un bon petit restaurant de temps en temps, le chocolat, des cadeaux. Il y en a que c'est une soirée vidéo, de jeux vidéo avec le chum, et toutes sortes de choses. Mais on s'aperçoit que ces choses-là sont toujours éphémères. Et il y a toujours quelque chose qui finit par nous décevoir. Hein? Le restaurant, ça coûte cher. Le chocolat, ça fait engraisser. Mais il y a tout le temps quelque chose qui finit par nous décevoir. Et comme Michel le mentionnait ce matin, hein, on vit des bonheurs et on vit des malheurs. Et on est attristé. On est attristé pour des temps. Et parfois, on est relevé. Et on retombe parfois. Et c'est des hauts et des bas. Et ça fait partie. Ça fait partie de notre vie. Mais la joie dans tout ça, comment est-ce que je peux trouver la joie? Et j'aimerais vous suggérer ce matin, peut-être une question. Avez-vous considéré la joie dans votre église locale? Est-ce que votre église locale peut être une source de joie? On va regarder ça. Et je veux porter un regard ce matin sur notre texte. Le texte qui nous parle d'Israël, le peuple à Jérusalem, et en quoi on peut y voir une relation avec la vie et la joie que l'on peut obtenir à travers la vie dans notre église locale. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup hein, que la religion, les croyances, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Faites ça chez vous, dans votre chambre, la porte fermée. On ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre. C'est ça aujourd'hui, la pensée du monde. Faites votre religion chez vous. On ne veut pas vous voir. Isolez, s'isoler les uns les autres. C'est ce que le monde veut, qu'on s'isole, qu'on reste chez nous, dans nos salons. Et on va voir ce matin qu'il en est tout autre de la parole de Dieu. Alors, rapidement, je fais un petit rétro sur ce que notre frère Trevor a apporté la semaine dernière sur le chapitre 7. Avant d'entrer dans le regarder plus en profondeur nos versets, on voit au chapitre 7 un changement de régime. On a vu dans les 6 premiers chapitres la préparation, la construction, l'organisation du peuple pour vraiment bâtir des murs de pierre, de briques, de bois, de métal. On préparait cela. Et maintenant, la job est terminée. On rentre dans une autre phase. On a vu la semaine dernière la phase préparatoire du rétablissement spirituel du peuple, l'adoration. Et ça a commencé par des étapes concrètes. Hein? On a vu qu'ils ont fait le dénombrement, savoir qui est là, qui est-ce qu'on a parmi le peuple, le dénombrement. Et que c'est un dénombrement que Dieu avait mis à cœur à Néhémie. Et on a également vu l'établissement de fonctions internes, hein, la protection, la pureté et les offrandes. Comment organiser tout ça? Donc, chaque catégorie de gens parmi le peuple avait une forme de participation et de responsabilité. Alors, évidemment, c'est une photo récente. Ce n'est pas une photo de l'époque. Et ce n'est ni devant la porte des eaux. Mais on va regarder, comme le chapitre 7 nous indiquait, au-dessus de 50 000 personnes étaient réunies à Jérusalem pour cette célébration. Et on voit ici le retour de l'exil. On va regarder rapidement qui sont ces 50 000 personnes. Évidemment, on a vu dans la première leçon, si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, qu'il y a eu une première vague. Hein, la première vague du retour d'exil, presque 100 ans avant Néhémie, sous Zorobabel. Donc, une première vague de retour d'exil. Et une deuxième et une troisième, comme je mentionnais, pratiquement 100 ans. Donc, ces gens-là, ici, on avait un mélange. Un mélange, évidemment, toutes ces personnes qui étaient arrivées pratiquement 100 ans avant, on peut estimer entre 3, 4, peut-être même 5 générations de Juifs étaient installés à Jérusalem et en Canaan depuis Zorobabel. Et là arrive une vague, des nouveaux. Il arrive des nouveaux et qui entreprennent la construction de la muraille parce que le temple avait été reconstruit, mais la ville n'était pas complétée. Alors, on a ici donc un mélange et les relations, on a vu dans les derniers chapitres, les relations ne sont pas faciles. C'est pas évident. Donc, il faut retenir ça. D'où viennent-ils? Babylone, la Grande, des images qu'on a vues hein, dans notre enfance lorsqu'on lit l'histoire de Daniel et de ses amis qui sont entourés d'un peuple païen qui adore des statues, un roi terrestre qui demande l'adoration. Et on voit un exemple ici des amis de Daniel qui refusent de s'y plier. Donc, ils devaient vivre dans ce milieu plus de 1500 kilomètres de Jérusalem. Donc, ils étaient loin de chez eux et avaient à se soumettre aux lois païennes et idolâtres de ce peuple. Donc, d'où viennent-ils? De cet endroit. Et que savent-ils? Ben ça, c'est intéressant. Parce que pendant l'exil, il n'y avait pas de temple à Babylone, évidemment. Et c'était très problématique d'avoir la possibilité de lire les Écritures. Pratiquement impossible. Il y avait, il y a plusieurs sources d'informations, mais il n'y avait seulement que quelques copies qui étaient préservées. Les scribes retranscrivaient quelques copies qui étaient précieusement gardées et protégées. Mais principalement, ce qui circulait parmi le peuple juif, c'était une tradition, la tradition orale, le bouche à oreille. Donc, une partie de ce qui était connu par cœur dans la loi était transmise, mais également des lois supplémentaires qui commençaient à s'organiser, parce qu'on sait que la tradition orale est issue de l'exil de Babylone et elle constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Okay? Et si vous avez des conversations parfois avec certains théologiens du milieu universitaire, je vous dirais, il y a parfois une confusion lorsque l'on parle de l'origine des Saintes Écritures. Et on va tenter de vous faire comprendre que les Écritures de la Bible proviennent de la tradition orale, ce qui est faux. Okay? La tradition orale est le fondement du livre qui s'intitule le Talmud. Okay? Et ce qu'on voit là, le Tanakh, okay? C'est les trois lettres qui constituent la Bible hébraïque, si on peut dire, ou des Juifs. Donc, c'est trois livres. Et les noms de ces trois livres, on a évidemment la Torah. Okay, qui est la loi, les cinq, ce que nous, on a les cinq premiers livres, les cinq premiers livres de la Bible, la Torah, et le livre des prophètes, le Nébihim, donc pour la lettre N, et le Ketubim, pour les écrits historiques et les livres poétiques. Donc ça, c'est ce qui constitue les Écritures, et Et les Juifs savent très bien que ça, ce n'est pas issu de la tradition orale. Ce sont des instructions, des ordonnances données par l'Éternel directement à ses prophètes et qui ont été écrites sur des rouleaux. Donc, ne vous laissez pas confondre par la question des traditions orales au niveau des Saintes Écritures. Et où sont-ils et que font-ils? Eh bien, ils sont à Jérusalem maintenant, revenus de leur exil, comme je le mentionnais, plus de 1500 kilomètres à travers une marche dans la Mésopotamie et retour au sud vers Jérusalem. Donc, on voit encore une fois une photo plus récente et c'est le mont Omar ou le mont Moria, tout dépendant des traductions que vous avez, où vous avez cette mosquée où se situait le temple. Le temple d'Hérode. Et à ce moment-là, évidemment, le paysage était très différent. On va regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là. Où était-il? Où était-il rassemblé? C'est une description là, du périmètre du mur qui a été reconstruit autour de Jérusalem du temps de Néhémie. Et vous voyez la porte des eaux. La porte des eaux se situe un peu plus au sud de la construction, donc ici. Et c'est difficile à dire parce qu'on regarde ça du haut. À vol d'oiseau, c'est assez curieux qu'on pourrait voir comme deux murailles, mais comprenez là, que tout le tour ici, là, il y a de la dénivellation, hein, ça descend, c'est pas un terrain égal. Donc, on doit voir une certaine perspective et grâce à Google, les archives de Google Earth, si vous retournez en arrière, on peut aller chercher une photo du temple dans ce temps-là. Donc, comprenez, c'est une représentation artistique. Et il y a différentes variantes dans ce qu'on peut voir sur l'information dans les livres. Comme dans le modèle qu'on présente, vous voyez, la porte des eaux est ici. Dans certains modèles, elle est un petit peu plus par là, mais pour ce matin, là, on a une idée à peu près de où ça se situait. Donc, on peut voir que c'était pas tellement encore bâti tout le tour. Et le peuple était rassemblé devant la porte, donc à l'extérieur et à l'intérieur, de tous les côtés. On disait là, que les gens étaient vraiment rassemblés de part et d'autre, selon la tradition orale juive. Maintenant, c'est difficile. Moi, ça m'a toujours intrigué quand on voit des structures comme ça. C'est où est-ce que ça se situe exactement quand on regarde Jérusalem aujourd'hui? Et j'ai trouvé un visuel sur la ville de Jérusalem aujourd'hui. Et ce qui est tracé en rouge, approximativement, c'est ce qu'on a vu tantôt. Approximativement où se trouvaient les murs. Peut-être un petit peu plus là, vers gauche, ça, c'est très imprécis. Mais juste pour vous donner là, l'idée de la dénivellation qu'il y a sur le terrain. Donc, vous voyez la vallée du Kidron, Porte des Eaux, fait face à la vallée du Kidron. Et vous avez, on voit la mosquée d'Omar sur le mont Moria. Et tout ce qui entourait, en fait, la ville, l'ancienne ville, était constitué de vallées, de gorges et de ruisseaux, rivières. Et si vous cherchez un beau spot pour un condo, avec vue sur le mont des Oliviers, vous allez avoir tout un spectacle en perspective un jour. Je fais une petite incursion par rapport à qu'est-ce qu'ils font. J'appelle ça une fête juive 101, okay? Très rapidement. Okay? Dans les Écritures, dans la Torah, l'Éternel a donné 7 fêtes. Il a prescrit 7 fêtes. Et ils sont précisément placés dans le calendrier juif à des jours bien précis. Et chaque jour du calendrier correspond à des cycles lunaires bien précis. Donc, tout est orchestré en suivant des dates et un timing de précision. Donc, on est un petit peu trop vite, mauvais bouton. On regarde ici, évidemment, on est familier avec la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain dans le premier mois de l'année qui est Nissan. Vous avez une concordance des mois équivalents dans nos mois à nous. Et si lui n'est pas numéroté en bas, C'est ce qu'on appelle le mois des années intercalaires ou embolismiques. C'est-à-dire que nous, on a des années bisextiles, on rajoute une journée à tous les 4 ans, et étant donné que eux, c'est des mois qui varient entre 28 et 30 jours, ils rajoutent un mois complet à tous les 3 ans. Donc, pour suivre l'année tropique, exactement, de 365,2 et des poussières jours. Donc, fête des pains sans levain, sortie d'Égypte, les Hébreux quittent l'Égypte soudainement, apportent avec eux les pâtes, mais laissent la levure en arrière et partent dans leur marche dans le désert avec des pains qui n'auront pas de levain. Alors, célébration du Mois Nissan, la Pentecôte, mai-juin, la fête des trompettes, jour d'expiation, la fête des tabernacles. Alors, on est ici dans notre histoire, dans le septième mois de Tishri, septembre-octobre, la fête des tabernacles, ou ce qu'on pouvait voir dans les calendriers, la fête des Soukots, ou Soukot, tout dépendant des traductions, et la fête du dernier grand jour. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans nos calendriers, on achète des calendriers, puis on remarque que dans nos calendriers, les fêtes juives sont inscrites. Hein? Dans bien nos agendas, on va le retrouver, et même qu'ils en ont ajouté. Sur les 7 fêtes, il y en a plusieurs d'ajoutés. Par exemple, la fête du Purim et du Hanouka et Yom HaShoah, qui est la fête pour célébrer l'Holocauste. Donc, c'est plein de fêtes qui ont été insérées dans leur calendrier. Et c'est difficile, hein? C'est difficile d'éviter toute cette information-là. Et comme je le mentionnais tantôt, les fêtes sont précisément placées dans des cycles lunaires. Et c'est comme si on voyait Dieu qui avait organisé le calendrier, le timing d'Israël avec des temps bien précis. Et je lisais un commentateur récemment qui disait « Regardez Israël et vous constatez que Israël, c'est l'horloge des temps de Dieu. » Et tu sais, on regarde une horloge comme ça, et je trouvais la comparaison très bonne. On peut regarder si on fixe une horloge. Hein? On voit la trotteuse. Hein? Il disait, suivez l'actualité. Suivez l'actualité, puis il n'y a pas une semaine, vous n'entendrez pas parler d'Israël. Suivez l'actualité, il dit, c'est comme si vous suiviez la trotteuse. Vous voyez ça, là, ça défile. Il dit, maintenant, étudiez l'histoire d'Israël. Regardez dans les dernières années. Allez voir dans les livres. Il dit, c'est comme si vous regardiez l'horloge, l'aiguille des minutes. Puis il dit, allez dans les Écritures. Et dans les Écritures, c'est la petite aiguille, tu sais, qui est pratiquement, le mouvement est imperceptible, mais c'est un temps, ça bouge et ça avance. Et on met, Dieu a des temps précis pour le temps d'Israël. Je vais la remettre de mon côté parce qu'il faut que je la surveille aussi. Donc, un impact sur nous, leur fête dans nos calendriers, leur coutume alimentaire sur nos produits, sur nos tables. Vous remarquez ça, hein? Toutes les pots de beurre de peanuts, la margarine, tout est indiqué, c'est présent dans les nouvelles. Israël est l'épicentre, c'est l'épicentre du Moyen-Orient. Vous comprenez quand je dis épicentre, hein? c'est l'endroit où, tu sais, le tremblement de terre commence, hein? toute la déflagration. Israël est l'épicentre, mais il ne faut pas s'alarmer avec ça. Si vous faites partie du corps de l'Église, alarmez-vous pas avec ces temps-là. Ces temps-là appartiennent à Israël. Dieu a un temps bien précis pour son Église et un traitement des promesses extraordinaires. Donc, ne soyez pas alarmés. Et j'aimerais regarder, justement, lorsqu'on parle d'Israël et de l'Ancien Testament, vous savez, ces spectacles où est-ce que on a des gens qui sont derrière l'écran et on projette des ombres et on voit différents scénarios. Et si la lumière était, si le voile était enlevé, ça se trouve être des personnes, hein? Tu sais, le palmier ici, là, on voit les bras, des gestes, ça, c'est des têtes qui font des noix de coco. Le chameau, hein, c'est toutes des personnes. Donc, c'est comme, c'est trompe-l'œil. On voit des formes, mais qu'est-ce qui se cache en arrière? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, lorsqu'on regarde notre texte ce matin, moi, j'aimerais lever le voile, allumer la lumière pour qu'on voit, là, qu'est-ce qu'on peut regarder avec ces textes. Mais quoi, là ou non, là, c'est pris sur Google Maps. C'est encore là. Et ça rappelle des souvenirs, hein? C'est spécial. Et c'est un peu comme notre Jérusalem. C'est un peu comme notre Jérusalem parce qu'on constate, on peut constater encore des ruines. Il y en a un qui me dit, à un moment donné, il dit, notre perron, il dit, c'est comme, il dit, ça pourrait être notre mur des lamentations. Il est encore là. Mais on ne se lamente pas. On n'est pas vraiment différent. On n'est pas vraiment différent. On a commencé. On a commencé dans notre construction la planification des plans. On a fait, on a également fait un dénombrement aussi. On a regardé qui était avec nous dans l'église locale. Donc, sans vraiment avoir regardé dans le livre de Néhémie, c'est drôle, mais le Seigneur nous a mis à cœur des étapes. Et lorsqu'on lit le livre, on découvre qu'on est comme en train, de façon actuelle, on est en train de suivre exactement qu'est-ce qui se passe. La joie de l'Éternel sera votre force. Donc, comme ce peuple d'Israël, nous venons tous d'endroits différents. Quand je mets endroit en guillemets, c'est qu'on provient tous d'un arrière-plan différent. On est ici rassemblés, on a toute notre histoire. Et elle est différente. Hein? On a toute notre histoire. Mais on vient quand même, on provient d'un endroit où notre cœur, on était quand même tout pareil, on était de la même place à Babylone, des ennemis de Dieu, des idolâtres, des esclaves du péché. Voilà ce que nous étions avant d'arriver. On avait également des croyances différentes. On avait toutes nos petites traditions, des religions, des croyances tricotées par la main des hommes. Et nous sommes, comme je le mentionnais, dans notre petite Jérusalem, entourés de ruines, mais en reconstruction. Et surtout, nous sommes un peuple qui s'assemble. Alors, regardons notre texte au verset 1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Un pasteur d'une grande église américaine à Washington écrit dans un livre qu'il rencontre souvent. Il rencontre souvent des gens qui, lors de conférences, lui mentionnent que l'église locale n'est pas vraiment nécessaire. Même quand il y en a qui disent, moi, l'église, à mon église, là, les gens, ils me ralentissent. C'est pas assez vite pour moi. J'ai pas besoin de ça. J'ai tout ce qu'il me faut chez nous. J'ai une bibliothèque remplie. J'ai accès à Internet. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'être membre d'une église. Et cette même personne, M. Mark Deaver, commence souvent ses conférences en disant, « Si vous vous dites chrétien et vous n'êtes pas membre d'une église locale, il dit, je crains que vous en allez tout droit en enfer. » Je pense que là, ça l'accroche mon audience en commençant. Et tout ça pour en venir à expliquer qu'il dit, « Si vous êtes chrétien, il dit, vous avez été réconcilié avec Dieu, mais comprenez qu'il dit, vous êtes réconcilié avec son peuple aussi. Vous êtes tout ensemble. Il dit, pas question de rester isolé, chacun chez nous. Il dit, vous êtes un corps, les membres du corps de Christ. Et comme il est dit dans les Écritures, hein, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ou la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est un corps. Hein? Et on sait, un corps qui manque des membres, c'est dysfonctionnel. Et le corps de Christ n'est pas fait pour être dysfonctionnel. Et On continue. Verset 5. Lorsque il, Esdras, eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils étaient attentifs à la lecture du livre de la loi. Hey, ça, c'est tout un rassemblement. Hey, solennel, officiel. Ils étaient révérencieux. Mais là, peut-être vous allez dire, hey, c'est des idolâtres, ça. Ils étaient en adoration devant des rouleaux de papier, de parchemin, où ils étaient en train de faire la révérence à Esdras. C'est le livre, hein? C'est le livre dont il était question. La Torah. C'était pour le peuple quelque chose d'extraordinaire qui arrivait. Tu sais, c'est comme des petites choses qu'on garde pour des moments spéciaux, là. Et là, je donne une illustration qui est vraiment diminuée, là. Mais tu sais, là, comme les madames, des fois, il y a certains bijoux qu'ils gardent pour des moments bien spéciaux. Tu sais, ils mettent pas. Là, quand ils sortent, là, c'est quelque chose. Tu sais, ou mon oncle, là, qui avait sa Cadillac 58 dans le garage, puis il avait une couverte dessus, là, le dimanche après-midi, là. Il allait me donner une raille. De prendre une raille dans ma Cadillac. On s'assisait sur le banc en arrière avec des petits coques en bouteille. Là. C'était le moment spécial. Eux avaient un moment spécial. Le livre de la loi, la Torah était présentée. Et là, ils étaient en révérence devant ce livre. Et avant même de plonger leur regard dans le livre, hein? Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. C'est important. On a le privilège là, des copies, là. Il y en a-tu qui n'ont plus qu'une chez eux? Hein? On en a, hein? Puis il y en a sur Internet, on en a dans nos pads et tout ça. Et c'est vrai, on ne fait pas de l'adoration de livres de papier, mais les mots qu'il y a dedans. Quand on le rouvre, hein? Est-ce qu'on est révérencieux? Avant, là, tu sais, là, quand on prend un temps et avant d'ouvrir la parole, est-ce qu'on est comme ce peuple-là, révérencieux devant les mots qu'on apprête à pénétrer dans nos yeux puis rentrer, là? C'est-tu important, ça? De considérer l'importance. Oui, c'est juste un livre, c'est juste du papier, mais les mots qu'il y a dedans transforment des vies. Et je pense qu'on doit être comme le peuple d'Israël, révérencieux devant l'importance des mots et de la parole qui sont là. Et les Lévites, verset 7, expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place, distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Donc, ils ne lisaient pas d'autre chose que la loi de Dieu. Et il y avait un groupe d'hommes, un groupe de personnes qui enseignaient. Donc, on voit l'importance de cette étape, qu'il y avait une lecture et il y avait un enseignement. Et un enseignement fait par plusieurs, une pluralité. Et c'était pas seulement Esdras, mais il était accompagné des Lévites, des scribes. On vient tous ici le dimanche pour recevoir des explications sur le sens de la parole. Et Dieu a quelque chose à nous communiquer à travers ses serviteurs dans l'Église locale. Et que ce soit moi ou Trevor, Benoît, Jean-Marc, Michel, etc., etc. On est comme tout ce groupe d'hommes-là qui, à un moment donné précis, Dieu a quelque chose à dire à son peuple, et à moi le premier, à transmettre. Donc, ça ne peut pas être en restant assis dans notre salon, sur notre berceuse, qu'on va recevoir ce que Dieu a à dire aux gens de son Église. À son Église. Et ils trouvèrent, écrit dans la loi, des ordonnances. Et toute l'assemblée fit des tentes. Tout le monde embarque. Comme cela était ordonné. Alors, la mise en pratique des ordonnances. Même s'il y avait toutes des maisons, ils ont fait des tentes. Parce que je disais, pas besoin de faire des tentes, on a des maisons à Jérusalem. Hey, ça fait 6 mois qu'on construit, là. Et plus. Même si j'ai une maison, même si j'ai une belle chaise berceuse chez nous, je viens faire ma tente ici le dimanche. Comme ils ont fait. C'est une ordonnance. Je le fais parce que c'est une ordonnance. Tu sais, quand le médecin, là, il examine, là, puis il dit, je vais te faire une ordonnance. Tu sais, c'est quand même important, là. Il a examiné tout ça, puis on peut comprendre que les médecins ne sont pas parfaits. Mais notre grand médecin, Jésus-Christ, lui, ne se trompe pas. Il a donné une ordonnance. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien notre maladie. On est des oublieux. On oublie. Alors, il demande, faites le repas. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et comme cela est ordonné, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait à l'Assemblée du Cap. Et puis là, on peut rentrer dans des débats. Ouais, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire à chaque dimanche. Ouais, mais peut-être une fois par mois, ça sera assez. Ou une fois par année. On est des oublieux. Je vous dis même une fois par semaine. On peut oublier pareil. Je dis, je pense qu'il faut éviter. Il faut éviter de rentrer dans des débats où peut-être, et selon des interprétations, c'est pas sur ce terrain-là que le Seigneur nous invite à avoir des réflexions, mais sur la façon dont nous le faisons. Et premièrement, si nous le faisons. Donc l'importance, comme le peuple, qui, toute l'Assemblée, fit des tentes, comme il était ordonné. Est-ce qu'on suit les ordonnances du Seigneur concernant son repas du Seigneur? Et ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car ils avaient compris les paroles. Ça vous arrive-tu des fois, aujourd'hui, ils disent des « wow moments ». Tu sais, un moment « wow », là, on lit la parole et puis là, on vient de saisir quelque chose. Tu sais, c'est comme « hey, wow ». Ça, c'est la joie, hein, lorsqu'on entend, on lit la parole, on a une explication et ça amène une joie. Hein? L'enseignement de la parole nous amène une joie. Si vous venez au repas du Seigneur, là, c'est bien rare. C'est bien rare que je viens à la table du Seigneur et que ça m'a écrasé, ça m'a donné de la joie. Hein? Suivre l'ordonnance. Hein? Je m'attache à la parole. Je vais au repas du Seigneur. Les baptêmes. Le Seigneur qui nous demande de baptiser. Les nouveaux croyants. Les journées de baptême, c'est-tu réjouissant un peu? On entend des témoignages, puis ça nous donne de la joie. Aller annoncer l'Évangile. Partager à quelqu'un l'Évangile. On va sur les kiosques des fermiers chrétiens à l'expo ou à autre événement. On partage l'Évangile, on annonce, ça nous donne la joie. C'est difficile, comme le peuple disait, c'était pas facile la reconstruction. Même chose, on suit les ordonnances, pas facile, mais quelle joie que ça nous apporte. Et moi, c'est le verset que je retiens ce matin. Une joie, mais pas n'importe laquelle. La joie de notre Seigneur. Et on parlait de fête. Je parlais de fête tantôt et je vous invite à... Oh, en fait, je l'ai sur l'écran. J'ai trouvé ce verset-là à un moment donné. Pas que je l'ai trouvé, mais ça m'a comme... J'ai eu le « wow moment », là. En lisant le verset, ça a été comme... Et 1 Corinthiens, chapitre 5, il faut bien comprendre le contexte, hein, qu'on n'est pas dans le chapitre 11 où il y a des instructions sur comment tenir la table du Seigneur. Mais plutôt dans le contexte du chapitre 5 où Paul était en train de parler de l'orgueil, l'infamie, l'impudicité qui régnait au sein de l'Église de Corinthe. Et tout d'un coup, dans son discours apparaissent ces quelques versets. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, hein, dans leur orgueil, dans leur refus de changer. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de pureté et de vérité. Dans quelques versets, Paul mentionne à propos de deux fêtes, la fête des pains sans levain et la Pâque, il nous dit, c'est donc, célébrons donc la fête. Il n'est pas en train de donner des instructions sur quelle sorte de pain on doit manger. Il parle par l'esprit, comment nous devrions être. Sortis de l'Égypte, on a laissé la levure en arrière, on emmène notre pain sans levure, on est sortis. Et Christ a été notre Pâque, immolé. Je trouve ça formidable de voir que, comme je le mentionnais, l'ombre des choses à venir, et on regarde les fêtes juives et comment ça peut annoncer ce qui s'en venait. Alors, ça commence où? Ça commence où tout ça, cette fête? Et comme Trevor l'a mentionné la semaine dernière, attachons-nous à sa parole. Attachons-nous à sa parole. Est-ce que la joie de l'Éternel est votre force aujourd'hui? Au début, j'ai suggéré tantôt, là, quand le conférencier disait qu'une personne, si une personne se disait chrétienne et qui n'était pas membre d'une église, n'est pas sauvée. Okay? Il ne faut pas interpréter que le fait de venir à l'église, ça fait de nous un chrétien. Le chrétien est une personne qui est née de nouveau, régénérée par l'Esprit-Saint, qui a accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour ses propres péchés. Et que lorsqu'il est régénéré, il va porter du fruit. Et porter du fruit, il va s'attacher à la parole. Et en s'attachant à la parole, il va rechercher une communion fraternelle. Même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile. Bâtir l'Église de Christ, parce qu'il a reconnu l'importance de cette œuvre-là. Et ça ne se fera pas si on reste isolé, chacun chez nous. On doit tous se réunir dans notre Jérusalem, participer à la reconstruction des murailles et à l'adoration. Nous sommes un corps, et pas n'importe lequel, celui qui est assis à la droite du Père, celui en qui tous les pouvoirs ont été remis, même le pouvoir sur la mort, et qu'un jour, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, va premièrement ressusciter les morts qui sont en lui, et deuxièmement, va venir enlever ceux qui sont encore vivants et qui vivent pour lui. Alors, êtes-vous un de ceux-là ce matin? Êtes-vous un de ceux-là? Ne partez pas d'ici sans avoir obtenu son pardon, sans avoir saisi qui est Christ et quelle est son œuvre à la croix. Et plus important encore, ne mourrez pas avant d'avoir son pardon. Soyez réconciliés avec Dieu, aujourd'hui, maintenant. Je termine avec ça. Est-ce que on doit tous se rassembler pour l'adoration, pour la reconstruction de nos âmes, la reconstruction, la construction de son Église? Oui. Est-ce que on fait la lecture de la parole? Est-ce qu'on s'attache à la parole? Oui. Est-ce qu'on veut des explications sur la parole? Oui. Est-ce qu'on met en pratique la parole, les ordonnances que le Seigneur nous a données? Oui. Et vous savez, ça, là, c'est le meilleur cocktail. C'est le meilleur cocktail pour que la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, soit notre force. Amen. Prions. Seigneur Dieu, bien des choses ont été dites ce matin et nous voulons retenir, premièrement, retenir que tout est à propos de toi. Ce n'est pas à propos de moi ou de quiconque d'autre, mais à propos de toi seulement. Et que nous voulons, nous avons un désir profond, Seigneur, de te connaître davantage et on veut s'attacher à ta parole. Et sachant que il y a tellement de belles promesses qui sont attachées à cette parole, à cette ordonnance, Seigneur, nous voulons vraiment dédier nos cœurs, nos pensées, nos regards à ta personne et à ta parole. Aujourd'hui, chaque jour de la semaine, Seigneur, comme tu le dis, c'est la fête. Célébrons ta fête chaque jour. Et bénis ce peuple, Seigneur, et fais-nous du bien. Et bénis le temps de communion fraternelle que nous aurons ensemble cet après-midi et pour le reste de la semaine. dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.